Cap Nature.
Cap Nature Sandrine, bonjour.
Oui, bonjour madame. Je vous appelle, je voudrais juste savoir si vous avez été dévalisée ou s'il y a encore des choses en rayon.
Alors, on a été dévalisée.
Je sais que certains d'entre nous ont des doutes sur ce que nous allons faire. Nous ne serions pas des hommes si nous n'en avions pas. Mais le sort de notre pays, peut-être du monde, est entre nos mains. Nous ne pouvons pas. Nous n'osons pas refuser ce fardeau. Je suis convaincu que chacun d'entre vous fera son devoir.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne en attendant que le monde change. Moi c'est Philippe et je co-anime en alternance cette émission avec Jean-Pierre. Malgré le confinement, Radio Campus Tour reste actif en vous proposant des programmes faits maison pour vous aider à passer un confinement plus agréable et en essayant de vous divertir autant que possible. Alors au programme aujourd'hui, des chroniques préparées à domicile par les animateurs de Radio Campus Tour, une recette de cuisine, des jeux de société et une super rétrospective. On va commencer par notre chef étoilé Jean-Pierre qui va vous faire découvrir sa fameuse recette de pâtes et après on passera à Julien qui nous parlera de jeux de société. Et nous, on se retrouve juste après. Restez confinés, on s'occupe de tout sur Radio Campus Tour.
J'en veux pas si c'est pas des nouilles. Si c'est pas des nouilles, j'en veux pas.
J'en veux pas si c'est pas des nouilles. Si c'est pas des nouilles, j'en veux pas.
Que va-t-on manger?
Des nouilles.
Mais hier déjà.
Des nouilles.
Allez, encore un petit tuto cuisine. Ça fait le deuxième, je crois, pour la semaine. Eh bien écoutez, je crois que j'ai jamais autant cuisiné en 6 semaines qu'en 6 ans de ma vie complète. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, le produit star depuis le début du confinement, c'est les pâtes. Et eh ben, je vous ai proposé aucune recette avec des pâtes. Je vais combler à ce petit oubli tout de suite maintenant avec une recette de One Pot Pasta Primavera. Je parle très mal italien, veuillez me pardonner. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Combien de temps il faut consacrer à tout ça? Il faut compter à peu près une petite quinzaine de minutes de préparation, en incluant la cuisson, hein, évidemment. Qu'est-ce qu'il vous faut pour faire cette belle recette? Il vous faut quoi? Il vous faut 350 g de penne, c'est pour 4 personnes. Bon, là, c'est sûr que ça va vous faire plusieurs jours, sauf si vous êtes confiné en famille. 350 g de penne, 150 g d'asperges vertes fines coupées en petits tronçons. Bah, vous faites au mieux, vous faites comme moi. J'ai tout fait à l'avance hein, pour ne pas vous faire perdre de temps. 150 g de petits pois surgelés en boîte à votre convenance. 60 g de parmesan râpé et un peu plus si jamais vous pouvez. 2 gousses d'ail finement émincées et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive.
Ce matin encore,
des nouilles.
À midi enfin,
des nouilles.
On ne peut pas manger que des nouilles, il faut varier les menus.
Tout est prêt à l'avance. Je ne sais pas d'ailleurs si vous entendez, mais il y a un petit bruit là. Je crois que c'est mon voisin du dessus qui fait sa gym. Il s'est acheté un vélo d'appartement. Il faut dire qu'il est un peu en surpoids et qu'il est un peu gros et ça fait du bruit. Je ne sais pas si ça va, vous verrez. Mais il fait ça tous les matins, une bonne dizaine de minutes, je pense. Après, je pense qu'il s'arrête parce qu'il n'en peut plus. Bon, on revient à notre recette. Donc, les ingrédients, vous les avez. Alors, c'est assez simple. Vous mettez les penne, l'ail et l'huile dans une casserole, vous couvrez avec 1 litre d'eau. Donc là, moi, je vais tout doucement, si j'y arrive, voilà, remplir ma casserole. J'en ai mis partout, c'est surtout ça. Donc avec ça, une fois que j'ai rempli, ben, on va couvrir et on porte à ébullition. On laisse bouillir tout cette petite chose pendant 7 minutes en remuant de temps en temps et on couvre pas. Putain, j'ai même abîmé ma montre, quoi. Le truc de dingue, une belle montre Casio, là. Vous savez, les vieilles montres à calculette, la misère. Bon, bref, c'est pas demain, en plus, que je vais pouvoir la faire réparer. Donc, voilà, on l'a laissé bouillir. On va enlever, maintenant, le couvercle, ajouter les asperges, les petits pois et notre parmesan. On poursuit la cuisson encore 5 minutes. Vous vérifiez, hein, ça doit être tendre et enrobé d'une sauce crémeuse, que ce soit les légumes ou les pâtes. Si besoin, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau. Moi, j'ai évité de le faire parce que c'est un peu la piscine chez moi, ici. Et puis voilà, vous enlevez. Une fois que vous avez atteint vos 4-5 minutes de cuisson supplémentaire, vous laissez reposer un petit peu, 5 bonnes minutes, et vous pouvez manger. Voilà, j'espère que ça vous a plu. mon one pot pasta primavera, ma recette, voilà. Et je crois que je vais arrêter les tutos recettes cette semaine, je les reprendrai peut-être un petit peu plus tard, parce que je crois que j'ai épuisé toutes mes ressources en fait en termes de recettes. Voilà, ciao ciao, à bientôt.
Mais il y a les vermicelles, les spaghettis, les papillons, cheveux d'ange ou de demoiselle, ruban, coussin et tortillon, macaroni et coquillette, petits plombs ou langues d'oiseau, alphabet au bord de l'assiette, paniers, roulettes et fuseaux. Des nouilles, des nouilles, des nouilles, j'en veux pas si c'est pas des nouilles, si c'est pas des nouilles, j'en veux pas.
Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle chronique des coups de cœur de Julien, spécial confinement. Ça fait déjà plus d'un mois que l'on est tous confinés chez nous et il est vrai que le temps commence à être long. On a envie de retrouver sa famille, ses amis pour partager un bon moment ensemble et pour faire passer le temps. Et il ne faut évidemment pas le faire pour respecter les consignes gouvernementales et pour sauver des vies. Les gens cherchent donc des moyens pour pouvoir partager un bon moment ensemble, même à distance. Il existe donc des alternatives et vous avez sans doute déjà entendu parler d'une d'entre elles, les WhatsApp-Aéro. Cela consiste donc à prendre l'apéro depuis chez soi, avec sa famille et ses amis, en appel vidéo sur l'application WhatsApp. C'est donc une alternative pour se retrouver, mais évidemment une alternative à consommer avec modération. Pour ma part, je vais vous présenter d'autres solutions pour passer du bon temps avec vos proches, même à distance, et sans risquer les abus d'alcool. Et cette solution, c'est les jeux de société et leur version numérique. Car le secteur des jeux de société est en pleine expansion en France. En 2018 par exemple, c'était 20 millions de boîtes de jeux de société qui étaient vendues en France. Et les parents sont très attachés à cela. En effet, 60% d'entre eux ont pour habitude d'acheter des jeux de société à leurs enfants pour Noël. Mais les enfants ne sont plus du tout les seuls consommateurs de jeux de société. Car en 2018, encore une fois, 3,7 millions de boîtes de jeux de société étaient achetées par des adultes et pour des adultes. C'est un chiffre qui est en augmentation de 30% par rapport à l'année 2017. On observe aussi l'apparition et l'expansion de bars à jeux de société. Il existe plusieurs raisons donc à cette expansion massive des jeux de société pour les adultes. La première est l'envie de se détacher des différents écrans quand on se retrouve avec ses proches et aussi l'envie de partager un moment sympa car un jeu de société c'est toujours amusant. Je vais donc vous proposer des sites internet et une application pour vous permettre de continuer à jouer aux jeux de société tous ensemble et malgré ce confinement à distance. Et pour avoir testé tout ça, je vous assure que c'est vraiment très sympa. Le premier site internet que je vais donc vous présenter s'appelle Scribble.io. Le but du jeu est vraiment simple. Il consiste à faire deviner des mots par des dessins. Chaque joueur va donc avoir un mot à dessiner qu'il choisira dans une liste de 3 mots et il aura un temps déterminé pour le faire deviner aux autres participants. Plus vous trouvez rapidement à quoi correspondent les dessins, plus vous marquez de points. Et plus les gens devinent vos dessins, plus vous marquez de points également. Le gagnant est donc le participant qui cumule le plus de points à la fin de la partie. C'est un jeu vraiment drôle qui cumule la réflexion, la rapidité et la créativité. Évidemment, tous ces jeux que je vous recommande, je vous conseille d'être en appel vocal ou en appel avec les autres participants via des applications comme WhatsApp ou Discord qui sont très faciles à utiliser ou tout simplement par un simple appel téléphonique. Le deuxième jeu et site internet que je vais vous présenter s'appelle le Petit Bac. Comme l'indique le nom du site, le jeu est donc un petit bac. Pour nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas les règles de ce jeu, je vais vous les expliquer. Au début de chaque manche, une lettre de l'alphabet est tirée au sort. À partir de cette lettre, vous devez compléter des catégories définies au préalable, comme par exemple des métiers, des prénoms, des villes, des pays, par des mots commençant par cette lettre. Mais attention, il y a des subtilités à ce jeu. Par exemple, si deux personnes trouvent la même réponse pour la même catégorie, alors elles marquent beaucoup moins de points. Ce jeu est donc vraiment marrant et demande une vraie concentration et une vraie réflexion, en plus d'une certaine rapidité, car la première personne qui termine, c'est-à-dire la première personne qui trouve des mots pour chacune de ces catégories, arrête le jeu pour toutes les autres. Ce site est vraiment sympa, car il fonctionne sans aucun problème. Il est évidemment gratuit, comme tous les sites et applications que je suis en train de vous présenter. Il propose des milliers de catégories qui sont tous plus drôles et loufoques les unes que les autres. Et encore une fois, il y a donc un système de comptabilisation des points pour déterminer un vainqueur à la fin de la partie. Quand vous trouvez une bonne réponse, vous allez empocher 10 points. Si vous trouvez une bonne réponse, mais que quelqu'un d'autre a trouvé la même réponse que vous, vous n'empocherez que 5 points. Et si jamais vous êtes la seule personne à avoir répondu dans une catégorie parce que tout simplement les autres ne l'ont pas trouvé, ou parce que vous avez été plus rapide et que vous avez terminé en avance par rapport aux autres, vous gagnez 15 points. Je vais maintenant vous présenter un troisième et dernier site qui s'appelle Master of the Grid. À l'image en fait, d'un jeu télévisé, Master of the Grid va vous proposer de participer à un quiz culturel. Vous y retrouverez donc des questions d'histoire, de science, de géographie, de culture générale, de cinéma, sur les stars, etc., etc. Vous vous confrontez également à de très bons joueurs, car sur ce site internet, il y a vraiment des gens qui ont un très très bon niveau de culture générale. Il est honnêtement un petit peu plus complexe d'utilisation que les deux sites précédents, mais il offre également une plus longue durée de vie, car les questions sont réellement régulièrement renouvelées par des utilisateurs du site, et vous apprenez toujours de nouvelles choses en utilisant ce jeu. C'est vraiment un jeu culturel très sympa. Et pour terminer, je vais vous présenter une application mobile qui est donc disponible sur l'Apple Store et sur Google Play. Cette application s'appelle Plateau. Alors Plateau, P-L-A-T-O, l'orthographe est un petit peu spéciale. Et avec cette application, vous pourrez donc jouer avec vos amis, avec votre famille, vous pourrez donc créer des groupes avec tous vos amis sur l'application pour jouer tous ensemble à des jeux à plusieurs. Et ce site propose des jeux avec des adaptations un petit peu simplifiées de jeux très très communs et très très connus. Par exemple, vous retrouverez des versions similaires du Uno, du Monopoly, du Loup-garou, du Puissance 4, de la bataille navale, des échecs, des différents jeux de cartes, etc. Vous aurez aussi des versions miniatures de certains sports, comme par exemple du football, du basketball, du mini-golf, etc., etc. C'est une application qui est vraiment complète, qui fonctionne super bien et qui est d'une grande facilité d'utilisation. Vous avez simplement à télécharger l'application, à créer votre compte, c'est simplissime, et ensuite vous pouvez jouer sans aucun problème. Vous pouvez trouver vos amis et faire des parties de plein de jeux de société. Et comme cette application propose plusieurs dizaines de jeux, vous allez pouvoir y passer beaucoup de temps sans jamais vous ennuyer et toujours en passant un moment super sympa. Et voilà, c'est déjà la fin des coups de cœur de Julien. J'espère que cette chronique vous aura plu et que vous avez appris des choses. J'espère que vous pourrez jouer à ces jeux avec vos amis. Je vous les rappelle, si vous voulez, dans l'ordre de ceux que je vous ai parlé. Je vous ai donc parlé du site scribble.io. Ensuite, je vous ai parlé du petit bac en français, évidemment. Ensuite, je vous ai parlé de Master of the Grid. Et pour terminer, de l'application Plateau, Plateau. Je vous souhaite donc une bonne journée et un bon confinement à l'écoute de Radio Campus Tour 99.5. Salut !
On est de retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Je vous rappelle que cette émission vous est proposée du lundi au vendredi de 11h30 à midi et de 16h30 à 17h, et ce pour toute la durée du confinement. On va découvrir un documentaire exceptionnel fait par Audrey qui nous fait replonger dans l'ambiance de la Japan Tour Festival 2020. Voici la première partie de cette rétrospective.
En ce dernier week-end de février, se déroulait au Parc des Expositions de Tours la 6e édition de la Japan Expo. Vous écoutez Radio Campus Tours, suivez-moi pour une petite rétrospective auditive. Dans ce salon dédié à la culture geek, pop et au Japon, nous avons salivé devant les stands de nourriture du Grand Hall entre la grande scène et les arènes de combat, puis nous avons traversé le Hall A entre les boutiques et l'espace e-sport pour finalement nous retrouver dans les allées du Hall B, entre jeux indés, traditions japonaises et expositions. Je suis allée à la rencontre tout d'abord de youtubeurs.
Je vous laisse vous présenter.
Bonjour, moi c'est Amandine.
Moi c'est Rodolphe et on est tous les deux sur la chaîne I'm Rodolphe avec un projet qui s'appelle 80 jours Japon dont on va vous parler.
Rodolphe, explique-nous un peu plus ce que c'est 80 jours Japon.
80 jours Japon, c'est un projet qu'on a lancé avec Amandine tous les deux où on a loué un van pendant 3 mois dans lequel on a vécu, dans lequel on a dormi puisqu'il était aménagé pour faire tout le Japon, partir dans tout le Japon et partir à la rencontre d'artisans traditionnels afin de faire des reportages sur leur vie et leur activité pour mettre en valeur un aspect du Japon qui est plutôt méconnu et qui est pourtant très très important.
Grâce à vos reportages, on peut voir l'artisanat, la nourriture, tout ce qui porte à la tradition du Japon. Les reportages sortent sur YouTube aléatoirement. Du coup, veillez leur chaîne, mettez la cloche, abonnez-vous, c'est très important. Pour préparer ce voyage, vous avez mis combien de temps ?
Pour préparer le voyage, on a mis à peu près 3 mois. En fait, de manière à contacter les artisans, à mettre les sous-côtés, s'organiser, trouver un van adapté à ce qu'on voulait faire et surtout à faire un petit plan de route en fait.
La genèse de ce projet, d'où ça vous est venu ?
Personnellement, j'ai toujours été passionné par le voyage. voyage et la vidéo. Et quand on s'est mis en couple avec Amandine, elle aussi, elle adore le voyage. Et elle est plus marketing, communication, vendre quelque chose, créer des projets, entreprendre. Donc du coup, on a mis nos capacités ensemble. Et vu qu'on a vécu 3 ans et demi à Tokyo et travaillé dans la capitale tout ce temps-là, on s'est dit qu'on voulait rentrer en France. Mais avant ça, on voulait faire quelque chose qui nous marque. Parce qu'on voulait voir le Japon sous un nouvel angle. Que finalement, Tokyo, c'était métro, boulot, dodo. Et la culture du travail au Japon est très, très dure. C'était un petit peu blasé, quoi, de la vie au Japon. Et c'est pas du tout ce qu'on recherchait. On s'est dit qu'il y avait autre chose à voir. Allez, on va mettre nos capacités ensemble. On va créer un projet qu'on va essayer de vendre en France pour promouvoir un aspect du Japon, comme je disais, qui est assez méconnu. Et vu que le Japon intéresse quand même beaucoup les Français. Et on est parti sur les routes, quoi.
Est-ce que vous pouvez chacun me dire un avantage et un inconvénient de ce qu'est la vie en van?
L'avantage numéro un, c'est qu'on peut aller partout et dormir partout. Donc en fait, on n'a pas besoin de s'inquiéter de prendre une chambre d'hôtel en avance parce qu'on va aller dans cette ville à un moment donné. Donc ça, c'est génial. C'est vraiment la liberté. Et l'inconvénient, c'est qu'on a pris un van qui n'était pas trop cher, donc pas trop grand. On dormait, je ne sais même pas comment expliquer, les bras le long du corps, l'un côté de l'autre.
Alors pour moi, l'avantage principal, c'est d'avoir un voyage sur mesure qui est unique à toi, en fait, si tu fais ce voyage. Parce que forcément, quand tu pars dans un pays étranger, tu regardes un peu ce que font les autres et il y a forcément des endroits touristiques où on t'incite à aller. Et le fait d'avoir un van, ça te permet déjà d'aller dans des endroits qui ne sont pas forcément desservis par des bus ou des trains. Et ça, c'est incroyable, puisque nous, on a vu avec Amandine des endroits, un de nos endroits préférés au Japon, c'est un lac qui est accessible genre en bus, mais que personne ne connaît finalement. Et nous, on y allait parce qu'on l'a vu sur Google Maps, parmi d'autres endroits qu'on a vu comme ça. On a eu un Japon que personne d'autre n'a vu avant nous, en tout cas en termes de Français qui ont voyagé. Peut-être d'autres, mais qui l'ont pas partagé. Et du coup, voilà, c'était quand même un voyage unique. Et c'est pour ça que je recommanderais beaucoup. Après, l'inconvénient, c'est que nous, on est un projet pour travailler. Et c'est vrai que bosser dans le van, c'est impossible. La connexion internet, c'est important. On peut pas vraiment charger si la voiture ne tourne pas. Donc on était obligé d'aller dans des cafés pour se poser. Alors il y a beaucoup de cafés ouverts jusque très tard au Japon, dans tout le pays, mais il faut toujours payer pour avoir une conso, il n'y a pas forcément de wifi, il n'y a pas forcément de prise. Voilà, c'était assez délicat. Le premier mois ça allait, parce qu'il y avait l'euphorie du truc. Mais le deuxième mois, quand j'ai commencé à vraiment éditer les épisodes du vlog et tout, c'était un peu chiant. Des fois on ne trouvait pas de café avec du wifi, donc on perdait 2 heures à tourner en rond pour trouver un endroit pour se poser. Donc c'est vraiment du temps de gâcher, de l'essence de dépenser pour rien et de l'énergie.
Vous partagez vos aventures sur YouTube, mais est-ce que vous avez des anecdotes que vous n'avez pas partagées?
Oui, il y en a. En fait, on était au milieu de nulle part, donc à Akita, et on a trouvé un onsen sauvage. Donc en fait, c'est une rivière d'eau volcanique, d'eau chaude, qui se mélange avec une rivière d'eau douce, donc froide, pour faire des petits bains au milieu de la montagne, dans la forêt, sous une cascade où on peut se baigner. Donc on allait se baigner au milieu de nulle part, en semaine, voilà. On s'est déshabillé pour aller nager, enfin nager, se tremper. Bah, il y avait personne, hein. Sauf que quand on est sorti, on a commencé à se rhabiller, moi j'avais le cul à l'air, il y a un mec qui est arrivé. Et lui, il était là avec son casque de moto, il avait tout préparé, son petit savon, machin. Ça se voit que le gars, il allait en montagne, dans la forêt, assez souvent pour faire une petite baignade. Il a vu mon cul, voilà.
C'était son spot et tu étais là.
Moi, on en a parlé en vidéo dans un des épisodes du road trip. Ça arrivait assez tôt dans le road trip d'ailleurs. On était à Gifu, dans la ville de Gifu. On est allé dans un sento. Donc, les sentos, c'est les bains publics japonais. Et il y a beaucoup de sentos qui sont un peu cheap et qui sont fréquentés par la mafia dans certains quartiers peu fréquentables. Entre guillemets, hein, ça reste au Japon, c'est safe quand même. Donc, du coup, tout le monde est tout nu. On se lave tous ensemble. Donc là, il y avait des mecs très tatoués dans le sento. Donc, je suis pas dupe, je savais très bien. Surtout comment les autres japonais les regardaient, je savais qu'ils étaient de la mafia. Et donc si tu veux, moi les sento, à chaque fois que j'y allais, il y avait du savon disponible pour tout le monde. J'avais jamais fait de sento où fallait ramener son propre savon, c'était une première pour moi. Et je l'ai découvert en finissant le savon de quelqu'un d'autre. C'était pas le mien, il était pas public. Et donc du coup, il y a un japonais qui est sorti du bain, il était plein de bulles de savon sur lui pour me dire non. Et moi j'ai flippé parce que je me suis dit ouais, je viens de lui poncer son savon et il y a des mecs en tatouage autour de moi. Enfin bon voilà, j'ai eu un petit coup de pression quand même. Donc je suis parti attendre Amandine dans la voiture et quand elle est arrivée dans la voiture, elle fait mais pourquoi dans la voiture, pourquoi tu m'as pas attendu à l'accueil et tout. Je fais ouais non, j'ai fait une connerie. Enfin, j'ai eu un petit coup de pression quand même parce que les gens m'ont regardé dans le sento. J'ai fait genre que je parlais pas japonais pour éviter tout conflit potentiel et ça s'est finalement bien passé. Mais le mec a dû se dire mais qu'est-ce qu'il fait le blanc bec là à me voler mon savon.
Merci beaucoup pour ces anecdotes. J'espère que votre travail sera plus reconnu et que vous pourrez à nouveau partager des belles aventures. Merci à vous.
Auditeurice, si Rodolphe et Amandine vous ont donné envie de partir en voyage, peut-être aurez-vous besoin d'apprendre les bases du japonais. Si c'est le cas, tendez l'oreille.
Nous sommes actuellement sur le stand de Julien Fontanier. Bonjour.
Bonjour. Alors sur YouTube, j'ai créé la chaîne Cours de japonais. Ce sont de véritables cours de japonais, complets et accessibles gratuitement à n'importe qui sur YouTube.
En suivant vos cours, une personne lambda peut apprendre le japonais en combien de temps?
Alors ça dépend vraiment du rythme de chaque personne. C'est comme si je te dis Paris-Lyon, en combien de temps tu le fais, ça va dépendre de ce qui va en voiture, en tortue ou en TGV. Ça va vraiment, vraiment dépendre des gens. Mais si quelqu'un qui s'y met vraiment sérieusement, en quelques mois, il a déjà d'excellentes bases. Par exemple, tu vois l'écriture. Les gens se disent j'ai besoin d'un an pour apprendre l'écriture, les alphabets japonais, mais en fait non, tu as besoin de juste 2 semaines. Donc il faut s'y mettre et très vite en fait tu progresses, tu sais écrire puis ensuite créer tes phrases en japonais.
Donc si on s'y met en un mois, on est prêt à avoir les bases pour partir en voyage.
Alors quand tu apprends le japonais, il faut commencer par l'écriture, c'est la base. Tu vas faire beaucoup d'écriture sans voir la moindre structure de phrase. En un mois, si tu vas très 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 vite, que tu fais toute l'écriture et que tu commences la grammaire, oui. Mais en général, il faut bien un mois pour l'écriture déjà.
Et comment vous est venue l'idée de créer cette chaîne ?
Pour faire très simple, commencer à enseigner le japonais, j'ai créé ma propre méthode d'enseignement du japonais. Et quand j'ai vu la méthode que j'ai créée et qu'elle fonctionnait sur mes élèves, je me suis dit, bon, cette méthode, il faudrait en faire quelque chose, il faudrait la rendre accessible à n'importe qui. Et c'est là que je me suis dit, bah en fait, je vais la mettre sur YouTube pour la rendre gratuitement, comme ça, accessible.
Chers auditeurs, si vous voulez apprendre le japonais, rendez-vous sur...
sur la chaîne Cours de japonais.
Parfait, merci beaucoup.
Laissons le carré des youtubeurs derrière nous et allons explorer le secteur du cosplay. Au détour d'une allée, mon attention est attirée par les magnifiques créations de Lady S.
Nous sommes maintenant sur le stand de la manufacture de Lady S. Merci mademoiselle Lady S de nous recevoir.
Avec plaisir.
Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce qu'on trouve sur votre stand ?
Je crée des bijoux steampunk. Le steampunk, c'est de la science-fiction victorienne. Et donc, je récupère des montres qui ne fonctionnent plus pour en faire des bijoux. J'ai choisi d'autres composants de l'époque victorienne qui existaient déjà pour en faire d'autres bijoux.
Vous faites ça, c'est votre métier à plein temps ?
Oui, c'est mon métier à plein temps depuis 2 ans.
Sur votre stand, des bagues, des colliers, des bijoux à barbe, ce qui est très original et très sympa. Qu'est-ce que vous avez d'autre ?
J'ai des pendentifs avec des cristaux de Swarovski à l'intérieur, des boucles d'oreilles, des bracelets, des diadèmes. Et j'ai aussi des marque-pages qui ne sont pas des bijoux, mais qui peuvent orner vos livres de l'époque victorienne.
Vous faites exclusivement les conventions ? Vous avez une boutique ?
Je fais beaucoup de conventions, j'ai aussi des points de vente dans des boutiques de créateurs, par exemple à Montrichard, c'est Artisam. Et j'ai aussi une boutique en ligne avec un blog qui me permet d'expliquer la culture steampunk aux personnes qui la visitent.
Votre blog, l'adresse c'est
manufacturelady.fr.
Merci mademoiselle.
Dans l'inspiration de Star Wars, j'ai rencontré une cosplayeuse qui a gentiment répondu à mes questions.
Bonjour madame, merci de nous accorder une petite interview pour nous expliquer comment vous avez réalisé ce magnifique cosplay.
Donc c'est un personnage que j'ai créé moi-même qui tourne sur l'univers de Star Wars. Donc c'est un Twi'lek qu'on appelle ça.
Vous êtes en bottes, pantalon, chemise avec une étole capée, une ceinture, une arme à la cuisse et évidemment un sabre laser. Et vos enfants sont habillés aussi dans l'univers. Combien de temps ça vous a pris pour créer votre costume ?
Je suis pas loin des 220 heures.
Sans les accessoires, donc tout du début, à part les bottes évidemment, et le sabre, bien sûr. L'entièreté de votre tenue, vous l'avez fait avec vos mains et votre machine à coudre.
C'est ça, on l'a fait en couture. Après, on appelle ça crafter, donc c'est à base de créa mousse, de latex. Après, des éléments de base qu'on trouve en couture, ça peut être des collants, ça peut... C'est un mélange de tout. Et de patience, surtout de la patience.
Vous êtes lancé dans cette aventure de la création parce que c'est votre plaisir ou parce que c'est votre métier ?
C'est mon plaisir, c'est vraiment mon plaisir de créer.
Et c'est vos enfants qui vous ont inspiré le thème de la tenue ?
On va dire oui, et l'association Coscastle, qu'on fait partie tous les deux avec ma fille, on a fait plusieurs sorties et j'étais la maman accompagnatrice toujours en tenue civile et la dernière sortie, ils m'ont cassé un peu les pieds. Voilà, que je sois présente à la GFT en personnage cosplay.
Une toute première expérience où donc vous marchez dans les couloirs de la Japan Expo. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette association, s'il vous plaît ?
Alors, c'est une association qu'on a adhérée depuis tout juste 3 mois, qui est basée sur Retour. Ça permet d'avoir plusieurs personnes. On se retrouve tous ensemble. On se donne des coups de main, on fait des sorties, des conventions ensemble. C'est un partage. C'est vraiment un moment de partage tout ensemble.
On peut retrouver l'association sur leur page Facebook, qui est
Coscastle.
Merci beaucoup madame et bonne convention.
J'ai ensuite rencontré Léo de la Fab Lab.
C'est le Fab Lab de la ville de Tours. Donc on est une association et on met à disposition de nos membres un espace de création principalement axé sur ce qu'on appelle la création numérique, la fabrication numérique. Principalement de l'impression 3D mais aussi plein d'autres machines. On a une découpeuse laser, des brodeuses numériques et pas mal de machines à commande numérique qui vont permettre de faire de la fabrication à partir de fichiers préparés et modélisés sur un ordinateur.
La Fab Lab, c'est ouvert à qui ?
C'est ouvert à tout le monde. Nous, comme je disais, on est une structure associative. Le principe, c'est de prendre une cotisation à l'année. Et ensuite, ça donne accès aux lieux, aux machines et aux formations. Parce que non seulement on met à disposition un lieu de création, mais en plus, on donne beaucoup de formations sur l'utilisation de nos machines. Mais pas uniquement, aussi des formations plus généralistes sur la modélisation 3D, par exemple. Ou même sur la programmation, sur tout ce qui est lié au numérique, en fait.
Et la Fab Lab, c'est où à Tours ?
Alors, on est situé... sur le site de MAM, et on est ouvert du mardi au samedi entre 14h et 20h.
Pour les auditeurs qui ne connaissent pas Tours, MAM, c'est l'ancienne imprimerie qui a été rénovée et l'adresse de la rue, c'est
49 boulevard Preuilly.
Merci beaucoup, j'espère que ça vous aura intéressé et que vous irez voir le site internet de la Fab Lab de Tours.
Chemin faisant, ma gourmandise m'a attiré sur le stand de
Yuki Longeras avec sa marque Biscuiori à Saint-Avertin. Bonjour Madame Longeras.
Bonjour Madame.
Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce qu'est votre entreprise ?
Moi je suis pâtissière déjà et je fabrique de pâtisserie avec 100% farine de riz. Les biscuits secs, les biscuits un peu moelleux comme moelleux au chocolat, cake aux noisettes et voilà autre chose.
Là vous avez un magnifique stand achalandé sur la Japan. Où est-ce qu'on peut vous retrouver en dehors ?
Je me présente tous les samedis matin. Un bon jardin, bien sûr. Après, tous les 15 jours, dimanche matin, à Fondette.
La base essentielle, c'est le riz. Vous faites toutes vos recettes vous-même ?
Bien sûr, oui, j'ai la recette originale. Enfin, je fais beaucoup d'essais après. Je fais au moins 10 essais. Après, je finalise la recette et...
Ça part à la vente. Merci beaucoup.
Au milieu des allées, j'ai croisé une autre cosplayeuse de talent. Allons la voir pour qu'elle nous présente son travail.
Nous venons de croiser dans les allées un magnifique cosplay de Nicole Kidman dans Aquaman. Le personnage, c'est
Atlana.
Ça vous a pris à peu près combien de temps pour le faire ?
À peu près 200-250 heures.
Vous faites ça par passion ou c'est votre métier ?
Non, il n'y a pas de cosplayer professionnel en France, en tout cas qui vivent juste du cosplay. Donc c'est une passion et j'ai un métier à côté. Donc oui, c'est la quasi-intégralité de mon temps libre.
Chaque convention, vous avez des costumes différents ?
J'ai pas 50 000 costumes non plus. Ça m'arrive de faire les concours. En l'occurrence, j'ai fait le concours hier, samedi, à Japan Tour, avec ce costume-là. Et effectivement, j'essaye de présenter un costume différent à chaque fois que je fais un concours.
Sur ce costume, on peut voir qu'il y a différentes pièces. Est-ce que vous pouvez me parler un peu des matériaux que vous avez utilisés, des techniques ?
Alors justement, ce costume, il est intéressant parce qu'il y a beaucoup de techniques différentes. Donc, j'ai une combinaison déjà de base qui a été réalisée entièrement à la main. Donc, le graphisme sur Photoshop. Le tissu a été imprimé, le patron a été modélisé avec ma taille spécifique. Donc, ce n'est pas un patron du commerce. Je l'ai ensuite fait imprimer en Angleterre. Voilà, sur du tissu particulier. Arrivé chez moi, je l'ai cousu. J'ai repassé chaque petit détail avec de la peinture 3D pour accentuer les effets écailles dessus. Je l'ai repeint pour ajouter des textures et des couleurs différentes. Ensuite, j'ai beaucoup d'accessoires avec du cuir, du faux et du vrai. J'ai notamment du cuir de poisson, que donc l'univers d'Aquaman, c'est un univers aquatique, et je voulais des matériaux assez proches de la réalité. Donc il y a à la fois du cuir classique comme sur une petite pochette que j'ai dans le dos, et également donc j'ai du cuir de poisson sur mes protèges tibia et sur une espèce de nageoire. J'ai du latex sur ma dorsale, donc j'ai un espèce d'aileron dorsal qui est en latex pour garder aussi un effet très organique. Et j'ai du thermoplastique et de la mousse pour tout ce qui est faux ossements, parce que j'ai beaucoup d'ossements et de pics sur le costume.
De techniques utilisées pour un rendu absolument impeccable. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux gens qui veulent se mettre au cosplay ?
Alors bah justement, le cosplay c'est autant pour les gens qui aiment coudre que les gens qui aiment bricoler, les gens qui aiment faire des bijoux, les gens qui aiment faire du maquillage. En fait, on touche tellement de techniques différentes qu'il y a toujours moyen de trouver un costume qui va nous plaire et de trouver un perso qui va à la fois respecter l'univers qu'on aime. Parce qu'aujourd'hui le cosplay c'est les mangas, c'est les films, c'est les séries, c'est les jeux vidéo, c'est tous les univers qu'on aime et c'est la BD aussi. Bah en fait, si vous aimez ça, lancez-vous. Le plus dur c'est de se lancer. Il faut surtout n'avoir rien à faire de ce que les autres pensent. Ne pas hésiter à demander des conseils aux gens, à des cosplayers que vous suivez, parce qu'on mord pas. C'est toujours un plaisir d'aider. Il y a plein d'associations. Il y a une super association à Tours qui s'appelle Coscastle. Ils travaillent avec le Fun Lab. Elles sont adorables. Clairement, voilà, cette association, elle est vraiment là pour aider les gens qui ont envie de s'y mettre. Voilà, si je peux recommander quelque chose aux Tourangeaux, c'est de contacter Coscastle pour commencer le cosplay. C'est vraiment idéal et ils sont plein de bons conseils.
Bah, merci beaucoup, Chouchou.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour En attendant que le monde change. Même heure et même place avec Jean-Pierre. Nous, on va se quitter avec les règles à respecter durant le confinement. Je vous dis à vendredi. D'ici là, prenez soin de vous, respectez le confinement et écoutez Radio Campus Tour 99.5 FM. C'était Philippe au micro. Salut à toutes et à tous.
Information coronavirus. Comment lutter contre le coronavirus ? Quand nous parlons ou quand nous toussons, nous pouvons transmettre le virus par de petits postillons. Quand on pose sa main sur une surface contaminée et ensuite sur son visage que l'on touche des centaines de fois par jour, le virus peut nous infecter en passant par la bouche, le nez ou les yeux. En sortant, une personne, même si elle ne semble pas malade, peut contaminer 3 personnes en moyenne, qui à leur tour en contaminent 3 autres. L'épidémie se propage alors à toute vitesse. Mais en nous lavant les mains très souvent, en toussant dans notre coude ou dans un mouchoir jetable, en respectant une distance d'au moins 1 mètre avec les autres, en restant confiné chez soi, Et en limitant nos sorties à nos besoins essentiels, nous évitons la propagation du virus pour nous et pour les autres. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.